nous inspirer de belles traces pour nous faire rêver. Oh, 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 de belles traces.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leur message, leurs valeurs, leur belle trace quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive.
Indissociable de son cheval Japlou, avec qui il a remporté l'or olympique, je suis fière de tendre le micro de belles traces à Monsieur Pierre Duroux. Nous nous sommes croisés plusieurs fois, on en parlait juste avant, mais je n'ai pas vraiment pris ou eu le temps de lui poser toutes les questions qui m'intéressaient dans ce monde, sur ce monde de l'équitation, du saut d'obstacles en particulier, et des relations forcément particulières avec leurs chevaux. Alors maintenant, it's time! On est à Monaco au Sportel, c'est le moment, en face de moi! Salut Pierre!
Bonjour Flo, ça va?
Ouais, oh, je suis vraiment ravie de t'avoir au micro.
Et moi, ravie d'être interviewé par toi.
Alors, comment ça va?
Bien. Ouais, c'est presque indécent de le dire, oui. Dans cette période qui est si compliquée pour tout le monde. Mais honnêtement, je vais bien, oui.
Est-ce que c'est le sport plein air qui font ça? Parce que moi aussi, je vais bien.
Alors écoute, d'abord, j'ai remarqué une chose qui va peut-être te faire hurler. C'est que j'ai remarqué que les cavaliers vieillissaient plutôt assez bien par rapport à bien d'autres sportifs.
On ne peut pas hurler du tout. Bon,
d'abord, parce qu'aussi, on peut pratiquer longtemps. Oui. Donc déjà, mais même si beaucoup considèrent que ce n'est pas un sport, malgré tout, ça fait travailler énormément de muscles. Et donc, on peut garder comme ça une silhouette encore convenable. L'équitation est proche de la nature, donc bien sûr avec le rapport avec les chevaux, mais aussi on a un contact privilégié avec l'extérieur, la nature. Moi, c'est tout ce que j'adore, et j'ai le bonheur en plus de vivre dans une très belle région du Saint-Émilion. Pour ceux qui sont des connaisseurs et qui apprécient le bon vin, ils connaissent forcément Saint-Émilion comme appellation, peut-être un peu moins le village qui est magnifique, puisque c'est un village médiéval, et j'habite tout à côté de Saint-Émilion, donc dans un environnement, comme on dit aujourd'hui, rural.
Et là-bas, tu as un centre équestre, un haras, qu'est-ce que...
Oui, alors, Haras, pour juste faire le distinguo, mais tu fais bien, par rapport à ceux qui ne sont pas des initiés. Haras, normalement, c'est un lieu où on fait l'élevage des chevaux. D'accord. Et ensuite, tu as des écuries privées, donc, et tu as des écoles d'équitation qu'on appelle traditionnellement, autrefois des clubs hippiques, maintenant des centres équestres. Oui. Voilà. Voilà. Alors, je n'ai rien de tout, je n'ai plus rien de tout ça.
D'accord.
Mais je continue quand même de monter à cheval, pas quotidiennement, mais très régulièrement. Notamment, j'ai un filleul qui monte à un très bon niveau dans la discipline qui fut la mienne. Et il fait appel à mes services pour l'aider à entraîner ses chevaux. Et j'ai beaucoup de bonheur à le faire, ainsi qu'avec mon gendre.
Ah, voilà. Génial. Et j'ai vu aussi que tu te servais des chevaux pour une thérapie. Il me semble avoir lu un article comme ça, pour les femmes... en difficulté ?
Alors, en fait, ce n'est pas moi, mais c'est une très belle association, HUP, qui est au bord du Léman, mais côté français, et qui effectivement utilise l'équithérapie, ce que l'on appelle, pour redonner confiance, pour donner du courage à des femmes qui ont le cancer du sein. Soit qu'ils le combattent encore, soit qu'ils sont en rémission. Et effectivement, on a compris, mais déjà depuis de nombreuses années maintenant, que le cheval avait un pouvoir particulier. C'est une sorte de médium et quand vous êtes à son contact, vous transmet plein d'ondes excessivement positives et vous aide à d'abord... à être bien, à ressentir un bien-être en sa présence, et donc voilà, retrouver foi, confiance, et donc cette association m'a fait intervenir récemment. Thierry Lhermitte, l'acteur français, est très engagé dans cette association, puisque lui-même est un cavalier passionné. Alors lui, il fait de l'éthologie, ce que l'on appelle. Donc c'est l'étude des caractères des chevaux, etc. aussi pour savoir comment ils fonctionnent et comment on doit s'y prendre avec eux. Et j'ai vécu une expérience émouvante, vraiment émouvante et très forte à l'occasion de mon séjour avec cette association HUP.
Ah, génial.
Voilà.
Ah, c'est beau.
C'est beau, effectivement.
Ça me touche, je trouve que
c'est très beau. C'était très beau, surtout, de voir en... quelques jours à peine, des femmes qui évidemment avaient globalement, pour certaines, même presque perdu l'envie de se battre, et qui, dans cet environnement des chevaux, etc., eh bien, peu à peu, se sont métamorphosées, révélées et sont reparties pleines d'énergie.
Ouais, c'est génial. C'est génial. Alors, tu parlais justement cette relation avec le cheval. Au niveau de l'équitation, j'ai fait Karine Lagouac dans le podcast Belle Trace, Karine, qui m'a dit un mot, mais je pense que c'est la même chose pour toi. Il me disait, en fait, toi, le cheval rentre dans ta tête comme toi, tu es dans la tête du cheval, quoi, quand vraiment tu fais corps avec ta monture.
Bah, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie et le centaure, c'est surtout beaucoup cheval, mais la tête et celle d'un homme, eh bien globalement, quand on parvient à un état fusionnel avec son cheval, eh bien globalement, on comprend mieux la signification, la symbolique du centaure, c'est-à-dire qu'on est le prolongement l'un de l'autre, en vérité. Et ce qu'il y a de fabuleux dans cette connexion très particulière, c'est que on pense une directive à donner à son cheval, une indication, etc. Et quand vraiment la complicité est installée, ça ne se fait pas tout de suite. Ça demande des années, beaucoup de confiance, surtout mutuelle, et surtout de la part du cheval. Mais quand on est dans cet état-là, eh bien, on a le sentiment qu'il y a une transmission directe. Et même j'ai le souvenir, moi, d'avoir été bluffé lors des Jeux Olympiques, lorsque j'ai eu le bonheur avec mon fameux cheval Japlou d'être champion olympique à Séoul, lors de la deuxième manche, dont le cours d'exécution du parcours, à un moment donné, j'ai voulu lui donner donc une directive. Et je l'ai pensé, et il l'a exécuté quasiment en instantané, j'allais même presque dire en me précédant. Et là, j'ai encore ce souvenir à la mémoire. Ça ne m'est pas arrivé souvent en situation de compétition. Mais là, on était quand même évidemment dans un jour de grâce. On était dans une communion parfaite. Et en fait, il était mon prolongement et j'étais son prolongement.
Ah, c'est génial comme image. Enfin, ça va être une sensation fabuleuse. Cette sensation pour les sportifs qui n'ont pas de relation avec un animal, pour le coup, on dit qu'on est dans cet état de grâce, dans le flow. Et en fait, toi, tu l'as eu avec ton cheval, en fait, à ce jour-là.
J'ai entendu dire qu'il y avait des pilotes de Formule 1 qui avaient le sentiment de faire corps avec d'être la voiture eux-mêmes.
D'accord.
Bon, c'est matériel, c'est mais quoique, si on croit la physique quantique et autres, on peut imaginer que finalement, c'est de la matière aussi donc avec laquelle on peut être en synchronicité, quoi. Mais avec un autre être vivant, avec lequel on n'a pas évidemment les moyens habituels de communication, qui sont le langage, etc., mais avec lesquels il y a des possibilités de communication, eh bien, on peut arriver à cet état incroyable de je ne sais pas comment le qualifier, plus que fusionnel, vraiment.
Et alors, en fait, avant, on va reparler bien évidemment de Japlou, mais quand j'ai préparé un petit peu, tu t'es dit peut-être que ça démarrait assez vite, parce que je crois que dès que tu es arrivé dans un centre équestre, pour le coup, tu as rencontré Gitane.
Oh, je vois que tu es bien informé.
Et oui, Gitane, et dès le début, en fait, voilà, tu t'es dit c'est pour moi, quoi. Ça a été tout de suite, je peux pas dire le coup de foudre, mais peut-être que ça a réveillé, je sais pas, des cellules de centaure, mais en tout cas, tout de suite, c'était ta voix.
Bah, c'est-à-dire que je ne pouvais être qu'ensorcelé par une gitane.
Je ne l'avais pas vu comme ça, mais d'accord.
Mais en fait, j'avais été ensorcelé avant.
Ok.
Moi, je suis dans ma famille, nous n'avons pas du tout de lien avec le monde de l'équitation.
Ouais.
Mon père était dirigeant sportif, mon grand-père maternel avait fondé un club de football local, qui a d'ailleurs eu son heure de gloire, y compris en Ligue 2 aujourd'hui, alors que c'est un village de 1500 habitants à l'époque, Saint-Seurin-sur-Lisle, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai grandi dans l'univers du foot.
Oui.
Mais dans l'univers, bien sûr, de la compétition. Donc. Et tout gamin, j'étais mascotte de l'équipe. Donc moi, j'ai commencé sur les terrains de foot. Et avec mon grand-père, celui que je viens de citer, il m'amenait, quand j'ai commencé à avoir 9-10 ans, à faire du vélo dans la campagne. Et un jour, on s'est retrouvés, pas nez à nez, mais pratiquement, avec un cheval de travail, un cheval lourd, qui était dans un pré, là, en liberté, qui a eu un petit peu peur de nous voir arriver, donc il s'est agité dans son pré, il a attiré mon attention, et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai trouvé cet animal merveilleux, il m'a fasciné dans sa beauté, sa façon de bouger. Après, il s'est approché de nous très lentement, avec un côté à la fois une force incroyable, mais aussi on sent une inquiétude génétique, j'allais dire héréditaire, on le comprend mieux quand on sait que ce sont des proies dans la nature, quoi.
Mmh,
et aussi un côté fascinant, parce qu'énigmatique, justement, ne se livrant pas tout de suite.
Mmh,
et donc, on ne sait pas par l'œil, on n'arrive pas à décrypter ce que cet animal veut bien nous faire comprendre. Et j'ai été fasciné. Et à partir de ce moment-là, je suis rentré à la maison le soir et j'ai dit « je veux monter à cheval ». Alors ça, ce n'est pas fait tout de suite.
Oui.
Mais enfin, je dois dire que ça s'est emballé assez rapidement parce que à l'occasion de vacances, donc, j'ai fait une initiation à cheval et ça n'a fait que conforter cette envie, l'odeur du cheval. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que ça ne sent pas vraiment très bon, mais moi j'adore le soyeux du poil du cheval. Enfin, j'ai été complètement subjugué. À partir de ce moment-là, je n'ai voulu faire que cela. Et mon grand-père et mon père sont sortis de leur club de football pour créer une association et une école d'équitation.
T'avais dû être assez convaincant, alors.
Je sais pas, probablement. Oui. En tout cas, j'avais aussi une famille, un grand-père, un père surtout, qui a été formidable parce qu'il s'est investi, m'a accompagné jusqu'au Graal du titre olympique. Donc ça, c'est assez important. C'est même pas important, c'est déterminant. Donc il a accompagné sans jamais être monté à cheval lui-même.
Ah oui, c'est vrai?
Non.
D'accord, ok.
Voilà, donc c'est quoi, Je pense pas qu'on peut pas parler de hasard. Effectivement, je devais être prédisposé à vivre avec les chevaux et à vivre des aventures avec eux.
Et ce que j'ai lu, c'est qu'au début, tu commences un peu plus par le concours complet.
Oui.
Puisque c'est ça, au début, ça, a priori, ça fait moins peur que cet obstacle. Et puis finalement, en fait, on se rend compte qu'au niveau des sports, d'ailleurs, il y a plus d'accidents, c'est plus dangereux sur le concours complet que finalement sur le saut d'obstacle, hein, si je ne me trompe pas.
Non, tu ne te trompes pas. Alors en fait, si au début j'ai fait beaucoup de concours complets, c'est parce que dans ma région, moi je suis du sud-ouest, alors comme au même titre, en rugby on dit qu'il y a l'Ovalie,
oui. Eh
bien le concours complet d'équitation est plutôt du sud-ouest au départ, hein.
D'accord.
Donc, il y a 40-50 ans. Ça se pratiquait dans cette région. Pour grande partie liée aux chevaux qui avaient de meilleures aptitudes, ces chevaux qui naissent dans cette région, c'était des anglo-arabes, etc., qu'on retrouve d'ailleurs encore à un très haut niveau, hein, aujourd'hui. Et donc voilà, traditionnellement, quand on voulait faire de la compète, on s'orientait plutôt vers le concours complet, et nous on avait en plus dans mon coin, là-bas, un cavalier qui était très renommé, qui a été 10 fois champion de France, donc qui venait une fois par semaine nous enseigner. Et en fait, la dangerosité, tu en parlais à l'instant, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ce n'est pas moi qui en ai fait le choix, mais mes parents, j'allais dire plutôt ma maman d'ailleurs, parce que j'ai fait une très mauvaise chute.
J'ai lu ça.
Où le cheval, ce qu'on appelle un panache en équitation, où le cheval tombe en fait. Donc il vous entraîne bien sûr dans sa chute, mais suivant comment vous tombez, il vous roule dessus. Et quand même 450 à 500 kilos en plein galop, ça peut laisser des traces. Et il n'est pas rare qu'il y ait des accidents très graves. Bon, moi, par chance, j'ai eu simplement une commotion, protocole commotion, mais j'avais 12 ans, 13 ans. Et ma maman a dit, c'est terminé l'équitation, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux pas que mon fils se tue à cheval. Et mon père, fort habilement, avec beaucoup de diplomatie, lui a dit, écoute, on va l'orienter vers le jumping, le saut d'obstacle, parce que les barres, elles tombent, alors qu'en fait, en complet, surtout dans les preuves de cross, c'est du fixe. Enfin, même si maintenant, d'ailleurs, aux Jeux Olympiques, pour éviter justement ce genre de risque, ils ont des obstacles qui sont amovibles aussi. Voilà, donc complet, effectivement, ce qui est une très bonne école, parce qu'en fait, on fait du dressage, on fait de l'extérieur, donc pour donner de la confiance en soi, c'est probablement même la meilleure école. Et ensuite, vers une spécialité qui est, allez, comme si on compare encore avec le sport automobile, c'est un peu la F1, le jumping, le complet, c'est le rallye. Mm-hmm. Voilà, on va dire ça comme ça.
Oui, c'est une belle analogie. Ouais. Et donc, tu as franchi petit à petit les étapes. Évidemment, tu passais les galops, et puis après, sur ces concours en compétition.
On même pas ça les galops à l'époque.
Ah, mais... c'est pas ça. Vous avez un peu copié sur le ski, hein, pour
exact.
Les pêches. Hein, c'est ça.
Tu as tout à fait raison.
Voilà.
Ça a été copié sur le ski.
Oui.
Mais pas pour forcément la meilleure des façons. Hein. C'est-à-dire
c'était
pas pour
forcément.
Voilà. C'était pas
forcément. Mais dans le ski aussi, hein, c'est très commercial.
Ben, je sais bien, c'est pas forcément pour accompagner la progression.
Mais
c'était surtout pour ponctuer et puis inciter à une fidélité. Donc c'était quand même une démarche très commerciale.
Oui, mais en
revanche, maintenant il y a les galops.
Mais en revanche, il y a quand même toute une notion pédagogique où il faut remplir des questionnaires, il faut apprendre des choses, alors qu'en ski, c'est essentiellement des réalisations techniques qu'il faut savoir faire.
Oui, alors on ne va pas évoquer ces sujets-là parce qu'en équitation, on pourrait encore mieux faire pour la formation.
Oui, je pense bien. Alors moi, j'ai noté, donc quand tu as progressé, alors il y a eu plein de différents chevaux, et jusqu'à le fameux Japlou. Ce titre olympique, cette histoire incroyable, mais moi de ce que j'ai vu de l'extérieur, après on parlera d'autres choses, mais en fait pour moi ça se résume pas à la médaille d'or. En fait pour moi c'est une vraie histoire et c'est ça qui a touché les gens. Aujourd'hui quand tu parles équitation, alors il y a eu d'autres titres olympiques, hein, notamment ces dernières années, mais par équipe plus ou en complet. Mais ton histoire avec Japlou, avec ce cheval à caractère dont tu vas nous parler, pour moi c'est une histoire. Et en fait les gens ont envie de ça finalement. Alors oui, il y a la médaille d'or au bout, donc l'histoire est encore plus belle, mais cette relation avec ce cheval, il faut que tu nous racontes, parce que c'est juste incroyable. Toi tu y as cru très vite, c'est ça?
Pas au tout début.
Vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé, cette rencontre avec Japlou.
Enfin, en tout cas, T'es une formidable femme des médias maintenant.
Ah bon?
Parce que je me souviens d'avoir entendu bon nombre de journalistes ou de rédacteurs en chef de grandes chaînes de télévision généralistes qui, évidemment, l'équitation fait partie de ce que beaucoup ont appelé les sports oubliés, dont on parle, pour ainsi dire, qu'au moment des Jeux Olympiques, à la condition, évidemment, qu'en plus, il y ait des bons résultats et des médailles. Et donc, les grands médias disaient, oui, mais l'équitation, c'est d'abord, c'est un peu compliqué de comprendre, etc., c'est très technique. Et puis, il faut une histoire. Alors, toi, tu as eu une histoire, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à votre carrière. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une histoire avec Japlou. Ouais. Alors, elle est due à pas mal d'ingrédients, comme on dit aujourd'hui. Tout d'abord, on était atypiques et l'un et l'autre. Ouais. Lui, encore beaucoup plus que moi, parce qu'en fait, il est le fruit d'un croisement, tu vois. Que génétique, pas un éleveur professionnel censé réfléchi n'aurait fait.
Oui.
Déjà, bon, puisque pour ceux qui peuvent connaître un peu, mais ils vont très vite comprendre, sa mère était pur sang, son père était trotteur. C'est-à-dire que les trotteurs, on les voit trotter sur les hippodromes, et les pur sang, ils galopent. Non, ils sautent pas du tout. Et les galopeurs galopent sur le plat, peuvent sauter de temps en temps. Mais c'est un croisement qu'on ne fait pas, et pour en raccourci et caricaturer un peu, c'est comme si on croisait, ça on va mieux comprendre, un labrador avec un lévrier afghan. Pour faire quoi? On ne sait pas vraiment. C'est pas vraiment le croisement qu'on va aller faire spontanément. Eh bien, voilà, il s'avère qu'il y a une personne originale qui l'a fait.
Ouais.
Et donc, Japlou est né de ce croisement-là. Et il a été testé au départ, d'ailleurs, sur les hippodromes.
En course,
de plat. Enfin, course, pas trotteur, mais en course de plat. Et où il était un piètre performeur, parce qu'évidemment, il n'avait pas les allures pour cela et les aptitudes. Il a même été essayé en haie, et il sautait trop haut. Et puis ensuite, en désespoir de cause, l'éleveur propriétaire l'a récupéré, a voulu le vendre aux enchères publiques, où il a été refusé parce que son pedigree n'était pas un pedigree normal et attractif. Et séduisant, et parce que surtout son autre particularité, c'est qu'il était petit, et qu'il est resté toujours petit.
Ouais.
C'est un joueur de basket qui ferait 1m65 ou quelque chose comme ça, quoi. Alors certes, un meneur de jeu peut être plus petit que les autres, souvent c'est le cas d'ailleurs, mais avec des grandes différences.
Mais là, il y a les mêmes barres à sauter pour tout le monde.
Ah, voilà. Et donc jamais personne ne pouvait imaginer que ce petit cheval puisse être aussi performant. Et comme je te l'ai dit, pas davantage moi au départ, hein, puisqu'on avait, et Dieu sait, et heureusement notre histoire et Japlou a battu en brèche cette idée arrêtée et préconçue à l'époque où, évidemment, pour sauter les obstacles, il valait mieux plutôt avoir un grand cheval. Et en fait, il a démontré le contraire, même s'il reste quand même globalement une exception.
Ouais.
Voilà, alors lui, c'est totalement atypique.
Ouais.
Donc personne n'a vu arriver cet ovni. Et moi, j'avais un parcours assez atypique, d'abord sportivement, j'en ai parlé, je viens d'une culture qui n'était pas du tout de l'équitation, pas du tout de ce milieu-là, avec mon environnement familial. Après, bon, j'ai eu le bonheur d'être quand même performant très jeune, tout de suite. Et puis, grâce à ma maman, qui a insisté pour que je poursuive des études, donc il ne voulait pas que je cède aux sirènes qui est facile d'en faire une profession et de s'orienter vers ce qu'on aime le plus, m'a imposé un parcours scolaire, universitaire, après, qui m'a conduit à exercer un métier qui était sans lien du tout avec la pratique de l'équitation. Et il s'avère que l'essentiel de ma carrière, même au pic de ma carrière, quand je suis champion olympique, je suis toujours en fonction, professionnellement parlant, avec un cabinet d'administrateur judiciaire. Ouais.
D'accord.
Donc, ça faisait de moi, alors, ceux qui étaient plutôt positifs disaient que j'étais un semi-professionnel, d'autres un semi-amateur, mais j'avais un statut très, très particulier. Donc, nous étions, en fait, très particuliers, nous étions atypiques, et donc, ça a attiré forcément les commentaires, pas toujours les meilleurs, la curiosité, Et puis évidemment, après les performances ont été telles que, après le scepticisme, après l'interrogation est devenu le moment de la fascination et de supporter inconditionnel, quoi, qui nous suivait partout. Et puis la dernière raison aussi, c'est qu'on a eu une très longue carrière, ce qui est rare. Oui. 10 années de très haut niveau, parce que Japlou était précoce, et il a terminé plutôt tard. Oui. Donc 10 années, donc c'était une sorte de feuilleton. Tous les ans, vous voyez, revenir. Et donc les gens se sont identifiés.
Oui, complètement.
C'est très important dans le sport. Hein, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, l'équitation a évolué de telle sorte qu'on ne voit plus des carrières aussi longues. En tout cas, plus les mêmes couples. Pas le cavalier ou la cavalière et le cheval.
Mais tu étais propriétaire de Japon ?
Oui, j'étais propriétaire.
D'accord. Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert les Jeux de Rio, où je me suis occupée pour le comité olympique des médaillés donc, dans plusieurs sports. Et donc, je suis allée sur l'équitation. Et j'ai découvert ce monde de propriétaires, en fait, qui était là. Et franchement, on va être clair, ils m'ont bien fait comprendre que je n'étais pas de leur milieu. Hein, j'ai bien compris. C'est... Moi, j'étais là, oui, on va peut-être... Mais nous, notre cheval... Mais en revanche, tu vois, il y a une chose qui a été super, c'est que pour avoir discuté, je crois que c'était Kevin Stott, qui venait d'être champion olympique par équipe, et je lui ai dit, mais parce qu'il m'expliquait leur programme toute l'année, c'est tous les week-ends, les concours.
Aujourd'hui, c'est démentiel.
Physique, tu parlais du physique, attention, hein, pour tenir le dos, etc., c'est des programmes de gainage et d'étirement qui sont énormes, parce que sinon, ils ne pourraient plus marcher, hein, parce que voilà, c'est quand même très compliqué. Et je lui ai dit, mais. Bon, tu me parles parce que c'est des enjeux financiers énormes, tu as les propriétaires qui... Hein, et donc les propriétaires donnent leur accord pour participer au jeu, hein, puisque finalement, les propriétaires ne gagnent rien vraiment à part de la notoriété avec leur cheval pendant les jeux. Et je lui dis, mais dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi les Jeux Olympiques avec, et il dit, bah nous c'est... Et il m'a dit, regarde, Pierre Durand avec Japlou. Il m'a dit, l'équitation aussi est sortie de son milieu et rentrée dans le milieu de l'olympisme avec ce couple historique aussi.
Alors, il y avait Doriola. Voilà, il a une bonne connaissance de l'histoire du sport, mais pas suffisante, parce qu'en fait, celui qui a sorti véritablement, on ne va pas dire l'anonymat, mais de la confidentialité, l'équitation, le jumping, c'est Pierre Joncaire Doriola. Oui. Qui est le seul cavalier à ce jour à avoir été 2 fois champion olympique à titre individuel, ça ne s'est jamais reproduit. Et surtout parce qu'en 64 à Tokyo déjà, il avait été la seule médaille d'or de la délégation française. Et comme les Jeux clôturaient les premiers individuels, toujours les Jeux olympiques, eh bien la délégation évidemment était déjà pour l'essentiel repartie. Toute la délégation, ne pensant pas que ça allait jouer, et il avait la grande surprise générale, ramener la médaille d'or, donc la seule, donc elle avait déjà à l'époque été considérablement promue, même si lui, pour la petite anecdote, très fâché justement que l'on ne se soit pas intéressé à lui, il a mis 15 jours avant de rejoindre la France, pour faire attendre, et il a eu raison, il a été faire un petit tour partout dans le Pacifique. Avant d'entrer, il n'était même pas rentré par Paris, puisqu'il habitait, et c'était un catalan, donc un caractère très affirmé. Il était rentré par Barcelone ou Madrid, je ne sais où, et chez lui. Et les médias sont allés le débusquer 3 semaines après, mais il avait été très avare et il n'avait pas voulu, céder comme cela à tout ce cérémonial qu'il y a après. Donc il y avait Doriola, c'est lui qui a sorti un peu de l'anonymat, il avait fait la une de Paris Match, etc. Mais après, effectivement, pour la raison que tu évoquais tout à l'heure, il y a le couple que j'ai formé avec Japlou, parce qu'on est indissociable d'une part, et que c'est une histoire, il n'y a pas que des performances, il y a une très belle histoire derrière tout ça, qui a d'ailleurs inspiré plein de choses. Quoi.
Oui, et ben, notamment, on va arriver sur le film. Le film qui, pour toi, n'est pas... Enfin, c'est une fiction. Je crois que, attends, j'ai le maté, t'as noté. Il est assez fictionnel. Et tu mets, c'est une grande part autobiographique de Guillaume Canet, c'est ça hein. Voilà. Oui. Ouais. Il a écrit le scénario, dit tu ne reconnais pas exactement dans le film. Quoi. C'est aussi pour l'histoire...
Vas-y. Je dois dire que c'est quand même assez étrange que de son vivant...
Oui.
Avoir un film sur son histoire. Quoi.
Oui.
D'ailleurs, bon, je n'ai pas suscité du tout ça. Et même un producteur m'a sollicité pour globalement mettre dans un film cette belle histoire dont tu parles, honnêtement, j'ai cru au départ
Une blague.
Et puis, ça a mis du temps, hein, plusieurs années. Donc, effectivement, je pensais bien que c'était une blague. Et puis, si ce n'est que quand il a eu les financements, c'est plus devenu une blague, c'est devenu une réalité. Alors, au départ, les choses se sont très bien passées avec le producteur. Bien sûr, il y a eu des contrats de signer, etc. Donc, j'ai donné mon accord, mais je devais valider le scénario. Et à l'époque, quand ça se signe, les acteurs ne sont même pas encore choisis, ni quoi que ce soit. Ce sont un scénariste ou des scénaristes. En l'occurrence, il y en avait deux qui avaient travaillé sur le scénario. Et puis bon, les choses, c'est long, hein. Ça a commencé en 2007, contractuellement. Le scénario a commencé à être travaillé en 2007. Le film a été tourné en 2010-2011.
Ah oui.
Et il est sorti en grande salle en 2013. Ouais, c'est très très long. Bon, enfin soit, pour faire cette histoire très longue, courte, quand est venu le moment de choisir le casting, il y avait plusieurs acteurs qui avaient été pressentis par le producteur, dont le regretté Gaspard Ulliel.
Ah oui.
Il y avait bien sûr Guillaume Canet, parce que tout le monde connaissait son passé de cavalier. Mm-hmm. Et puis que, comme on dit dans le jargon, il est bankable. Et puis, il y avait un autre acteur qui est moins connu, mais qui physiquement, auquel je ressemble, ou qui me ressemble. Et là, l'idée du producteur, il ne savait pas s'il fallait choisir quelqu'un qui me ressemblait ou pas. On s'est rendu compte que ça n'avait pas vraiment grande importance. Et Gaspard Ulliel n'a pas été retenu parce qu'il n'avait pas suffisamment de familiarité avec les chevaux, etc. Et comme c'était quand même une histoire qui raconte du haut niveau, on n'est pas dans... Il fallait avoir quand même une gestuelle, une approche des chevaux, etc. Même si on est doublé.
Oui.
Et il y avait Guillaume Canet qui, jusqu'à présent, ne répondait pas aux sollicitations du producteur. Ce qui était quand même très, très surprenant, parce que c'était, a priori, un film pour lui. Alors après, on a appris qu'il y avait eu des histoires entre le réalisateur qui avait déjà choisi le producteur et Guillaume Canet, et que Canet ne répondait pas parce qu'il ne voulait pas jouer avec ce réalisateur. Et quand la question s'est posée, mais à peine 5 mois, c'était au mois de novembre, et le tournage était prévu pour démarrer en mars, et l'acteur principal n'était toujours pas trouvé. Et le scénario était écrit, par contre. Les autres acteurs étaient quasi choisis, pratiquement tous. Et donc là, il y a eu une réunion avec le producteur. Et puis un ami que j'ai présenté, qui était le cascadeur Mario Loracci, puisqu'il y avait quelques cascades. Et le producteur ne comprenait pas que Guillaume Canet ne puisse pas s'intéresser au film. Et c'est le cascadeur qui dit « Mais attends, moi je vais le joindre et je vais lui demander pourquoi. » Il l'a joint sur l'instant. L'autre lui a expliqué l'histoire du réalisateur. Il a raccroché. Donc le producteur lui a dit « Réalisateur ou acteur ?» Il nous a regardé quel est le plus important. Bon, moi j'ai eu plutôt tendance à dire « C'est l'acteur. » Et donc il a dit « Je vais changer de réalisateur. » Et il a choisi Guillaume Canet. Mais Guillaume Canet a posé ses conditions. Il a dit « Votre scénario, j'en veux pas. Moi je vais écrire le scénario. » Voilà.
D'accord.
Et c'est pour ça que je me suis permis de dire que c'est autobiographique, parce que lui-même a fini par l'avouer au bout d'un certain temps, pas été spontané, parce que comme il y avait tellement de choses qui se différenciaient de mon histoire,
oui, les relations avec ton père,
surtout relations avec mon père et relations avec le cheval, surtout. Et puis que dans le film, il a beau être éponyme, il s'appelle Japlou, c'est pas un hymne non plus au cheval. Hein.
Oui.
Bon. Et il a fini par avouer que c'était, ce qu'on avait compris d'ailleurs après, que c'était très autobiographique. Il l'a lui-même écrit, puisque quand tu achètes les DVD, tu sais, t'as toujours un petit livret sur lequel il a dit lui-même qu'il y a une grande part autobiographique.
Il y a quand même les images des jeux.
Oui, il y en a peu. Mais c'est pas tellement les images, en fait, qui m'ont dérangé, moi. C'était, je voulais pas dénaturer l'histoire avec mon cheval qui a fait l'histoire, justement.
Ben oui,
et avec mon père, dont je parlais tout à l'heure, qui a été tellement, tellement important dans ma vie, et avec lequel j'avais une vraie, vraie complicité, et qu'on ne retrouve pas dans le film. Voilà. Et puis Japlou n'est pas non plus... Le travail aussi qu'il y a eu derrière tout ça n'est pas vraiment montré, alors qu'il y avait un aspect pédagogique quand même pour transmettre aux jeunes qui adorent le film.
Oui.
Parce que pour en terminer là-dessus, je reconnais que c'est un bon film, qui est très agréable, qui fait rentrer dans les coulisses de ce sport qui n'est pas très connu. Il y a des belles images, donc les jeunes en raffolent, oui. Vraiment en raffolent. Oui, oui, oui. Chaque fois qu'il passe, même encore aujourd'hui, il fait des tabacs. Oui. Il avait d'ailleurs eu un bon score quand il était sorti en grande salle. Hein. Et donc, c'est une belle histoire, c'est agréable à regarder. Il y a un superbe casting, quand même, il faut le reconnaître. Mais donc, de ce point de vue-là, je suis heureux que notre histoire fasse du bien encore, même sur des générations qui ne nous ont pas connus. Qui me connaissent comme si j'étais encore en activité, c'est ça qui est incroyable. Mais je dois reconnaître que pour moi, ça m'a contrarié.
Oui.
Qu'on ne révèle pas des aspects qui me paraissaient importants et qui n'auraient pas nui du tout à la qualité du film, bien au contraire. Mm-hmm. Voilà.
Bah, écoute,
alors, il faut lire mon livre,
oui.
Qui, si on veut connaître la vraie histoire vécue de l'intérieur, qui s'appelle Japlou.
Et alors juste pour teaser le livre, alors du coup, comment tu qualifierais ta relation avec Japlou?
Bah, je crois que je l'ai qualifiée tout à l'heure. Hein. Elle est fusionnelle.
Fusionnelle,
ouais. Ouais. C'était mon alter ego, ou j'étais son alter ego. D'abord, on se ressemblait beaucoup dans les caractères, ce qui explique qu'au tout début, d'ailleurs, ça n'a pas matché véritablement, parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de personnalité. Ouais. Assez rebelle.
Et alors, ces ruades.
Non, il n'en faisait pas, là tu confonds.
Ah, okay.
C'était un autre fameux cheval avant lui qui s'appelait Galoubet.
Ah, voilà.
Qui a été effectivement très connu et très médiatisé par ses ruades.
Voilà.
Qui était un grand cheval.
Ouais.
Grand cheval de par les performances.
Il y a pas longtemps, j'ai revu le
film.
Les jeux, enfin, ton titre. Et je me suis dit, mais en fait.
Japlou n'a jamais rué.
Ah. Voilà.
Non, il s'est simplement, il était très, très résistant
et
très rebelle à l'autorité.
D'accord.
Donc il n'acceptait pas, il a fallu que j'évolue beaucoup pour arriver
à... C'est toi qui t'es adapté.
Ah oui, c'est moi, bien sûr. À le comprendre et à savoir comment le faire fonctionner.
D'accord.
Et il m'a beaucoup appris, il m'a fait évoluer, il m'a amélioré beaucoup.
C'est vrai. Et justement, avant d'entrer en piste, donc tu as la détente, c'est ça qu'on appelle ça, la détente.
L'échauffement, mais on appelle ça la détente.
Ah non, mais attends,
je vois que tu as bossé, c'est bien.
Pour ma fille, on a fait un petit peu de... et tu sentais s'il était bien ce jour-là, tu pouvais agir sur lui à ce moment-là ou c'était compliqué?
Alors, généralement, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Alors, sauf si le cheval, évidemment, a un problème de santé ou autre, donc là, qui effectivement peut révéler qu'il n'est pas à l'optimum de ses aptitudes, mais ça, normalement, on est vigilant, il y a des vétos, il y a tout ça autour qui font qu'on arrive à en connaître la raison. Mais ce n'est pas la raison principale quand un couple dysfonctionne. C'est plutôt lié au cavalier. Parce que le cheval, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un animal... C'est paradoxal parce qu'il paraît fort, il est musculeux, il est ça, mais qui est très fragile, très vulnérable et très inquiet, en fait. Parce qu'il est une proie, donc il a toujours peur pour lui, il est toujours dans une forme d'attitude défensive. Donc il ne se fait pas confiance, en fait. Très peu confiance. Et d'ailleurs, quand on trahit sa confiance, je ne vais pas dire que c'est pour la vie, mais pour la regagner, c'est très compliqué. Donc il faut agir avec infiniment de diplomatie et plutôt d'ailleurs de douceur avec les chevaux, et pas du tout d'être dans le rapport de force comme ça a été trop longtemps le cas malheureusement.
Ça a dû horrifier les images de Tokyo du pentathlon.
Oui, enfin on pourra en reparler parce que
le contexte est particulier. Mais
oui,
ça, c'est,
parce qu'en fait l'acte en lui-même est rien. Hein, c'est une tape de la main sur la croupe d'un cheval, autant dire qu'il peut même penser que c'est presque une caresse, parce que c'est quand même un cheval, donc il peut supporter. Non, c'est l'acte en lui-même. D'abord, dans le cadre d'une compétition, c'est interdit.
Oui.
Déjà, on ne peut pas faire ça. Et puis c'est l'acte lui-même qui révèle, en tout cas, que cette personne-là n'avait pas la connaissance et le respect des chevaux. En tout cas, ça c'est sûr.
Bah, il y avait la tension des.
Oui, mais ça on est d'accord. Mais enfin, pas l'entraîneur. Pentathlète. Soit effectivement plein désarroi, parce que je crois qu'elle concourait pour la médaille d'or et qu'elle perdait tout avec son cheval. Et c'est très compliqué, effectivement, l'épreuve à cheval dans le pentathlon. Donc ça, je comprends qu'elle, elle ait pu à un moment donné, mais c'est pas elle qui est tellement répréhensible sur le coup, c'est plutôt l'entraîneur. Enfin, la femme entraîneur. Donc je sais plus ce qu'on disait, donc il faut une vraie complicité. Et donc, en fait, c'est le cavalier. Et quand dans les compétitions, tu es fébrile, tu as fait de la haute compétition, du fait de l'enjeu, du stress, de pas mal de choses. Même si on en apprend mieux que d'autres, ou à canaliser, à maîtriser ses émotions, c'est... Le cheval, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un médium, c'est un médium aussi. C'est-à-dire que lui, on ne peut pas tricher avec lui. C'est-à-dire qu'il ressent tout, c'est une éponge. Tu l'approches, le cheval, tu le touches, il sait exactement si tu es serein, si tu es nerveux, si tu es dans de bonnes dispositions, si tu es inquiétant pour lui, il te scannerise tout de suite. Et en un instant, il va adapter son comportement à toi. Donc si tu es stressé, ça l'inquiète. Et donc, et le cheval est naturellement inquiet, donc ça va additionner à son naturel d'inquiétude. Et ensuite, si tu es fébrile et que tu n'as pas, la, comme on dit dans l'équitation, la main ferme dans la conduite du cheval, que tu laisses des situations où il y a du doute, où tu n'es pas précis, eh bien, le cheval n'aime pas le doute. Du coup, il faut qu'il se repose complètement sur la maîtrise de son cavalier et les... Et globalement, les ordres qu'il va lui donner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, si on est fébrile, on transmet ça à son cheval et généralement, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Alors, ça se sent à la détente, hein, ça, c'est clair. Mais moi, pour parler là encore d'une anecdote et pour révéler un petit peu pour ceux qui ne comprennent pas forcément ce qu'est cette relation entre un cheval et sa cavalière ou son cavalier, mais... Moi, je le connaissais tellement bien, il me connaissait tellement bien que le matin, quand je suis arrivé sur le site de la compétition à Séoul, c'était le stade olympique, les chevaux avaient été déplacés dans la nuit, ils étaient dans des box démontables puisqu'ils ne logeaient pas sur place. On concourait pour la première fois sur le stade, ça c'était aussi une difficulté. Quand je suis allé le voir, il était 5h du matin parce que notre compète commençait à 8h, je suis tout de suite, j'ai voulu voir dans quel état il était justement, tu vois, pour me dire est-ce que aujourd'hui il va être mon partenaire à 100%. Et je me suis approché du box, j'ai ouvert la porte du box et il était au fond du box. Je me souviens, il s'est retourné sa tête vers moi, il m'a regardé et dans son attitude, je suis même pas rentré dans le box, je suis même pas allé le caresser. Bah, j'ai dit, j'ai compris qu'il était là avec moi, qu'on allait être voilà, un, ce jour-là. Et ça a été le cas. Il a été infaillible.
Ah, c'est génial.
Et rien qu'au regard à son attitude. Ah, oui. On s'était compris.
Et alors après, quand tu gagnes, puisque tu franchis la cellule, et au dernier saut, tu gagnes. Dès le début, c'est que tu gagnes. Là où c'est une cellule. Hein.
Oui, t'as raison. Oui, j'adore.
C'est comme nous. Hein.
Oui, c'est exactement.
T'as raison. Parce que ça se joue à quelques dixièmes, des fois, aussi. Hein.
Même moins que ça, parfois.
Même moins que ça, oui. Et donc, tu franchis... Là, il me semble que tu gagnes. Tu sais que tu gagnes.
Non.
Il faut attendre encore derrière. D'accord, ok.
Je sais que je suis au moins médaillé d'argent.
Autant médaillé d'argent. Ah, ok.
Mais ça me suffit pas. Je n'étais pas venu pour ça. Et il n'y a plus qu'un cavalier qui passe derrière moi, un cavalier allemand. Et effectivement, s'il réalise un parcours sans faute, c'est lui, le médaillé d'or. Bah, c'est lui qui était sorti de la première manche en tête.
D'accord.
Puisqu'on repart dans l'ordre inverse, je ne sais pas si c'est comme vous en ski.
Oui, oui.
Et donc je rentrais juste avant.
T'étais en tête à ce moment-là.
J'étais en tête à ce moment-là, mais lui, s'il réalisait la même perf que je venais réaliser, il gagnait. Bon, ceci dit, c'était le bon scénario.
Oui.
Parce qu'en fait, je lui ai mis une pression d'enfer.
Il n'avait pas le choix, pas d'autre choix que gagner.
Voilà. Et donc là, ça devient compliqué. Et en plus. Il était dans une journée incroyable parce que ce cavalier, c'était évidemment, et ce cheval-là n'était pas des mauvais, puisqu'ils étaient sélectionnés dans la grande équipe d'Allemagne, qui était quand même là, il venait d'être champion olympique par équipe, donc qui dominait le monde. Mais lui, c'était le remplaçant, et il n'avait pas eu des perfs vraiment marquantes jusque-là, enfin, de grandes perfs. Et donc, c'était un peu incongru qu'il se retrouve là, dans cette
D'accord.
situation de pouvoir être champion
okay.
olympique. Et donc, j'ai pensé que c'était acquis. Quand je suis descendu de mon cheval, je suis allé regarder. Et avec l'entourage qui était le mien, on s'est dit, bon, sur l'obstacle numéro 3 ou 4, on va être tout de suite soulagé, parce qu'il va faire une faute. Eh bien, non. Il accomplissait le parcours avec une vraie maîtrise et tout ça. Et à un moment donné, avant d'aborder l'avant-dernier, qui était quand même l'avant-dernier et le dernier, les deux obstacles les plus difficiles, les plus fautifs, je me suis dit, c'est pas possible.
Mais
il va le faire.
Il
va le faire. Ouais. Et il a fait chuter l'avant-dernier.
Et là, quand donc tu sais que tu es médaille d'or, Il y a encore une communion aussi avec Japlou.
Non, parce que Japlou, il est parti.
Dans son box.
Moi, je suis au bord de la piste, où il est parti avec son soigneur, tout de suite pris en charge pour récupérer de ses efforts, bien sûr.
Oui.
Donc, lui n'est pas là. Moi, évidemment, j'ai la réaction en bord de piste spontanée.
Oui.
Dès qu'il fait la faute, je fais un saut, ce qui m'a été reproché après, par la suite, en me disant que je n'avais pas l'esprit sportif.
Non.
Mais très honnêtement, à ce moment-là, on ne calcule pas du tout. Je savais que j'étais champion olympique. Et puis, lui était rentré. Mais là encore, pour l'anecdote et pour révéler... toujours faire rentrer dans cette connaissance d'un animal complexe quand même à décrypter. C'était le stade olympique. Donc, quand on rentrait, nous, sur le stade, j'y étais rentré deux fois puisqu'il y avait eu deux manches, on marchait sur la piste d'athlétisme. Donc, il y a des bandes.
Oui.
D'accord ? Bon, et quand je suis rentré les deux fois précédentes, donc pour faire la compétition... je suis rentré, il n'y a eu aucun problème. J'ai traversé la piste d'athlétisme sans problème. Quand je suis revenu plusieurs heures après pour la remise de la médaille, on vient avec son cheval.
Oui.
Mais il ne voulait plus marcher sur la piste d'athlétisme parce qu'il avait peur des bandes blanches. Donc, ce qui veut dire que quand on s'est présenté pour la compétition, il était dans un état de concentration qui était le mien, qui était focus total. Et donc, il ne voyait pas ça. Et quand on est revenu dans la décontraction la plus totale, ben là, il a eu peur des bandes blanches et il ne voulait pas les franchir. Comme il y avait des obstacles aussi, qui étaient très beaux d'ailleurs à Séoul, parce qu'il assez magistraux, comme c'était le stade olympique, il fallait qu'il soit grand, parce que sinon ça aurait fait vraiment rikiki. Et ça avait été inspiré de la culture coréenne, donc il y avait des dragons, des trucs comme ça. Alors, ce n'est pas parce que c'était des dragons, le cheval, c'est parce qu'il y a un dragon, mais c'était massif. Et ce que l'on fait, nous, on fait un tour, pas de piste comme l'athlétisme, on fait un tour d'honneur. Mais il n'osait pas s'approcher des obstacles qu'il avait sautés.
D'accord.
Voilà. Là, vous avez une meilleure perception de ce qui peut se produire.
Le changement de concentration.
Oui, et puis comment un cheval arrive à se... calqué sur son cavalier, quoi.
Ouais. Et puis, je pense que vous aviez tellement donné pour cet objectif qu'il y a aussi une espèce de relâchement.
Il y a un relâchement, que tu connais, après avoir...
Mais il y a eu une épreuve par équipe aussi.
C'était avant.
Ah, c'était avant. Vous avez eu une médaille de bronze, non, c'est ça ?
Exact.
Voilà,
Non, là, c'était en clôture des Jeux. D'accord. C'est la dernière fois, d'ailleurs, que l'équitation s'est produite dans le stade olympique.
D'accord.
Il y avait juste le marathon qui arrivait.
Paris 2024, ça se présente comment ? Ça va
être par les médias, je vois que ça se présente bien.
Oui, t'es pas du tout impliqué.
J'ai été pas mal sollicité au moment de la candidature.
Oui, parce que t'étais président de la fédération.
J'étais président de la fédération. J'ai eu aussi après le bonheur de connaître la présidence du conseil d'administration de l'INSEP pendant 6 ans.
Bien sûr.
Donc là où je me suis ouvert à toutes les disciplines sportives.
Oui.
Non, j'ai été fort sollicité pendant la candidature, du fait des relations, mais depuis, non.
Non, depuis, non.
Non.
Ok.
Mais je lis que ça a l'air d'être en bonne voie. Donc...
Je sais. Et le site, je ne sais pas où est le site, d'ailleurs.
Si, Versailles. Alors, ça aussi, pendant le cadre de la candidature, j'ai accompagné la commission, là-bas, sur place, pour vendre le site, ce qui n'était pas une évidence. Parce que la Fédération française d'équitation était contre.
Ok.
On peut le comprendre d'une certaine façon, parce que c'est Versailles, certes, mais il n'y a pas de structure, et qu'il préférait, dans le cadre d'une notion d'héritage, qu'il y ait globalement un stade équestre qui soit construit quelque part et qui puisse se pérenniser. Mais d'un autre côté aussi, quand on parle d'héritage, il faut savoir aussi de quoi on peut parler. Il y a plusieurs types d'héritage. Il y a l'héritage par les équipements ou les infrastructures, mais on se rend compte qu'au final, dans les sports d'hiver, avec notamment les pistes de bob, vous en êtes rendu compte. C'est-à-dire qu'après, ce sont des structures qui sont sous-utilisées, qui sont coûteuses et qui même sont portées par les pouvoirs publics souvent et qui donc sont coûteuses. Et ne génèrent rien, ni de la pratique, ni du profit. Et c'est vrai que nous, l'équitation, malheureusement, on est plutôt quand même un sport encore... confidentiel, donc on ne peut pas être dans un stade de 40-50 000 spectateurs, ça ne se remplit pas. Jamais à l'année, même sur une compétition internationale de très haut niveau. Donc avoir une structure telle que celle-là à entretenir, forcément, C'était pas forcément le bon choix en termes d'héritage. Et là, l'héritage qui a été choisi, c'est plutôt en termes d'image, de valorisation de l'équitation, dans un écrin absolument, bien sûr, royal, bien sûr, Versailles, mais enfin, qui est l'endroit le plus connu au monde, le plus visité au monde, et puis on imagine bien la beauté des images qui vont être véhiculées et qui vont être donc reprises dans le monde entier et qui vont voir des chevaux évoluer dans ce cadre majestueux du château de Versailles. Et toutes les disciplines vont être là.
Oui, puis il y a une histoire en plus, c'est vrai qu'on retombe dans le...
Aussi, bien sûr. Oui, c'est pas quelque chose d'incongru.
Oui, ça va être bien. Bon, tu viens en spectateur alors?
Bon, j'ose espérer que j'aurai peut-être une invitation, vu que depuis, il n'y a pas eu de champion olympique à titre individuel, français.
Français, oui.
Bon,
on le souhaite.
On le souhaite bien sûr à cette occasion-là.
Ouais.
On verra quel traitement sera le mien.
C'est la question.
Sinon, je me suis inscrit parmi les bénévoles.
Au cas où. C'est vrai.
Oui.
Génial. Super. Alors, bon, on arrive déjà à la fin du podcast, c'était passionnant vraiment. J'ai appris plein de choses, comme je le pensais. J'ai deux dernières questions. Est-ce que tu as une devise dans la vie?
Oui, enfin, j'en ai plusieurs, je me suis raccroché comme ça,
bien sûr.
Oui, j'allais dire, mais elle est assez commune à beaucoup, mais ne jamais rien lâcher.
Ah ouais. Ça, c'est clair, ça représente bien ton parcours, finalement.
Oui.
Et puis, alors, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace?
Une belle trace, c'est quand on est un sportif, plus particulièrement bien sûr investi dans la compétition et avec le désir de faire du haut niveau, voire même d'accéder à des titres, à des performances. Il faut reconnaître, je pense que tu ne vas pas me démentir, que c'est quand même un itinéraire assez d'abord personnel, individuel et plutôt égoïste. Plutôt égoïste parce qu'il y a des choix qui doivent se faire au détriment, souvent, d'un entourage familial ou autre, amical. Enfin, on doit serrer des priorités et le haut niveau est tellement exigeant que malheureusement, on doit être focus sur sa carrière et sur ses propres objectifs. Donc on est quand même dans une démarche très égoïste. Et alors donc moi j'avais quand même parfois des petits relents de mauvaise conscience comme ça, parce que c'est pas tellement ma nature, j'aime partager. Et finalement, quand tu parles de traces, eh bien je suis content de constater qu'après, finalement, malgré cette démarche très individualiste, où on fait peu cas de l'entourage, de l'environnement, eh bien, il y a quand même beaucoup qui ont fait le voyage avec nous, qui sont placés dans le sillage, et qui ont donc vécu des magnifiques émotions au travers de notre propre histoire. Et donc, c'est une façon de partager. Et puis, si l'histoire a été très belle, elle peut, après, encore avoir une vie. C'est Dieu merci ce qui s'est produit avec mon cheval Japlou. Le film, on en a parlé, etc. Et donc, c'est une trace qu'on laisse dans la vie. C'est un héritage. Ce sont des émotions partagées et qui peuvent se vivre, même lorsqu'on a arrêté la compétition de haut niveau et le théâtre des stades. Voilà.
C'est une belle trace.
Donc, c'est une belle trace. Et c'est une deuxième satisfaction, je dois dire. Et c'est une deuxième satisfaction et qui en plus nous enlève un peu de mauvaise conscience.
Merci beaucoup, c'était vraiment très fort comme témoignage.
C'est adorable, merci à toi. Flo.
Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss!
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.